de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et la dernière arme, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais comment se servir de ces armes ? Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Revenez là au verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. On veut commencer à parler ce soir de prier par l'Esprit. Et ce soir, nous allons considérer surtout l'idée de prier par l'Esprit de sainteté. Mais si vous regardez d'autres traductions pour ce verset 18, dans le NEG, nous avons fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La Bible de Semeur dit « Faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. » La Bible annotée parle de prier en tout temps dans l'Esprit. Et parole de vie encore « par l'Esprit ». Faites toutes vos demandes faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Et ailleurs, nous avons la même expression qui est traduite selon l'Esprit. Par exemple, Romains 8, 9, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est la même expression en grec. Donc on peut dire par l'Esprit ou dans l'Esprit, seraient les traductions les plus littérales, par l'Esprit ou dans l'Esprit, mais on pourrait aussi dire selon l'Esprit ou sous la conduite de l'Esprit. Donc, on est dans un sujet qui parle de la guerre. Et dans cette guerre, nous avons des ennemis. Et ces ennemis sont invisibles. On est d'accord. Donc, les armes, en fait, que nous prenons sont invisibles. Et cette activité dans laquelle nous nous engageons est aussi une activité qui est en elle-même invisible. Et Dieu nous demande de tout utiliser en tout temps par la prière. Et cette prière doit être dans l'esprit. Il n'y a que deux endroits dans la Bible où nous avons ces deux mots ensemble, avec prier. Plusieurs fois, beaucoup de fois même, on a dans l'esprit, selon l'esprit, par l'esprit. Mais prier dans l'esprit ou prier par l'esprit, on le trouve ici. Et peut-être vous avez une référence là à côté de ce verset. Est-ce que quelqu'un a une autre référence dans la marge de leur Bible ou à côté d'Éphésiens 6, 18, prier par l'esprit? Sinon, à vous de le mettre. C'est Jude verset 20. Jude verset 20, je vais vous le donner ici. Il dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » C'est presque la même phrase, nous avons l'ajout ici du mot « saint ». Au lieu de prier juste par l'Esprit, on a « priant par le Saint-Esprit ». Donc la Bible dit que nous devons prier pour l'aide de l'Esprit, Mais en Jude et en Éphésiens, il nous est dit aussi de prier par l'Esprit ou selon l'Esprit ou dans l'Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire, hein? Nous devons le faire ici à tout moment, hein? C'est-à-dire chaque fois que nous prions. Hein? Vous voyez ça, pour revenir à notre texte, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que chaque fois qu'on prie, on doit prier dans l'Esprit. Ce n'est pas seulement pour les occasions spéciales ou quand il y a des problèmes particuliers. Chaque fois que nous prions, nous devons le faire par l'Esprit. Et si Dieu nous dit de prier par l'Esprit, ça suppose que nous pouvons distinguer quand nous prions par l'Esprit, quand nous ne prions pas par l'Esprit. Alors, comment distinguer? Peut-être vous pensez à ce qui a déjà été dit dans cette même lettre, au chapitre 5, que nous ne devons pas être remplis et contrôlés par le vin, mais remplis du Saint-Esprit. Et certainement, cela parle de cela. Si nous sommes remplis de l'Esprit, nous allons prier aussi par l'Esprit. Mais nous voulons chercher quelques indicateurs objectifs. Il y a certaines personnes qui pensent que par l'Esprit, ça veut dire juste avec beaucoup d'émotion. Mais que dit la Bible par rapport à ces choses? Et il y a plusieurs choses à dire. Et ce soir, on va regarder une seule chose. Donc, ce n'est pas toute la réponse. Mais c'est une partie de la réponse et je pense que c'est peut-être le fondement de tous les autres. Prier par l'Esprit, c'est entre autres une question de caractère. Okay? Après, nous allons parler du contenu et même de la manière. Mais d'abord, notre caractère. Nous prions comme est l'Esprit. Et l'Esprit, il est saint. Alors, Romains 5, verset 5, dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et là, et presque 90 fois dans le Nouveau Testament, l'Esprit est donné cet adjectif qualificatif de saint. Il est appelé le Saint-Esprit. Alors, est-ce que, juste pour une illustration humaine, est-ce que vous avez prié, par exemple, avec quelqu'un, et le fait de prier avec cette personne a influencé vos propres prières? Juste le fait qu'ils étaient là, ils étaient avec vous. Peut-être c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis longtemps ou qui a beaucoup de foi. Et on sent leur foi en Dieu et ça nous donne plus de foi en priant. C'est une bonne chose de prier les uns avec les autres parce qu'on peut s'encourager. Mais là, on nous dit de prier avec et par le Saint-Esprit. Alors, comment est-il? Il est avant tout un esprit qui est saint. Il est saint. Et donc, prier par le Saint-Esprit veut dire que nous avons aussi, nous adaptons, nous prenons aussi ce même caractère que lui. Ce caractère de la sainteté. Il est appelé, en Romains 1, verset 4, l'Esprit de sainteté. C'est lui qui nous sanctifie. Et on pourrait se dire, mais est-ce qu'il est plus saint que le Père? Oui ou non? Non. Est-ce qu'il est plus saint que le Fils? Non. Il n'est pas le Saint-Esprit parce que Jésus est moins saint ou parce que le Père est moins saint. Les uns et les autres sont distingués comme ayant souvent des œuvres spécifiques ou des relations envers nous. Dieu est notre Père, par exemple. On dit Dieu le Père. Et pour l'esprit, je crois, et c'est beaucoup d'autres qui l'ont dit aussi, hein, qu'il a ce mot sainteté par rapport à sa mission envers nous. C'est que c'est son rôle de nous apporter la sainteté. Il est, comme on voit ici, l'esprit de sainteté. Vers la fin de cette même lettre, en Romains 15, verset 16, par des païens, qui soit une offrande agréable à Dieu, comment ? Pourquoi ? Et nous, on fait partie hein, de ces païens. Eh bien, parce que cette offrande est sanctifiée par l'Esprit Saint. Et en grec comme en français, c'est la même racine, hein, sanctifié, saint. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie les païens pour qu'ils soient une agréable offrande à Dieu. L'Esprit nous apporte la sainteté. Et nous voyons deux résultats de cette sanctification. Vous pouvez trouver ou suivre ici 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, juste les deux premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Vous avez trouvé la Trinité ici, je pense que c'est bien de le noter. Donc il y a Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Donc on a Dieu le Fils, maintenant on a Dieu le Père. C'est lui qui nous a élus. Et tout cela, c'est par la sanctification de qui ? De l'Esprit. Donc on a eu le Fils, on a eu le Père, et maintenant on a l'Esprit. Et vous voyez, tout ce que Dieu le Père fait en Jésus-Christ, il le fait par la sanctification de l'Esprit afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, lorsque l'Esprit fait son œuvre, quels sont les résultats ? Vous voyez, il y en a deux ici. Par la sanctification de l'Esprit, et quel est le premier résultat quand l'Esprit fait son œuvre de sanctification dans une personne ? Eh bien, vous êtes amenés à obéir à Jésus-Christ comme Seigneur et Maître. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Ça, c'est le premier résultat de l'œuvre de l'Esprit. Il nous rend obéissants. Mais nous savons que chacun d'entre nous n'obéit pas comme on le devrait le faire. Et c'est pourquoi il y a aussi cela, lorsqu'il a accompli son travail de sanctification, quelle est la deuxième chose là ? Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Il nous rend participants de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et nous savons donc que Dieu accomplit son œuvre de sanctification lorsque nous sommes amenés à vouloir vraiment obéir. Et on se trouve même en train d'obéir à Dieu et de suivre la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous échouons, comme nous le faisons chaque jour, hein, chaque heure, un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit, qui chute en même temps, eh bien, on peut nous approcher de Christ en tant que propitiatoire. La référence ici à l'aspersion du sang, c'est en Exode 24, où Moïse parle du sang de l'Alliance. Et ce sang de l'Alliance, on le mettait sur le couvercle de l'arche. Rappelez, il y avait les 10 commandements à l'intérieur qui représentaient la loi de Dieu. Mais tout cela était couvert. Et le couvercle, on appelait quoi ? Le propitiatoire. Voilà, le propitiatoire. Parce que c'est là où on mettait le sang. C'est là où Dieu était rendu propice. Le sang couvrait, en fait. La loi qu'ils ne pouvaient pas garder, c'était couvert par, en fait, la miséricorde de Dieu, représentée par ce sang. C'est ce qui cache derrière ce langage de Pierre ici. Et il parle de ces croyants du moment de leur conversion, mais c'est quelque chose qui se poursuit tout au long de la vie chrétienne. Donc, moi, je veux connaître ces choses. Je veux connaître l'amour de Dieu. Je veux prier, je veux savoir utiliser mes armes. Je dois le faire, et je dois faire en priant par l'Esprit. Et quelle est l'œuvre donc de l'Esprit dans ma vie? On le voit. Il me pousse à l'obéissance. Et il me pousse à venir vers le sang de Christ pour la purification. Donc, objectivement, prier par l'Esprit signifie prier par l'Esprit de sainteté. Nous conformer à sa sainteté. Et on le fait grâce à l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Et toujours avec lié à Jésus-Christ. Et le Seigneur a souffert dans la chair afin de nous amener à Dieu, n'est-ce pas? Mais pas de n'importe quelle manière. Il veut qu'on s'approche de Dieu comment? Et pendant l'éternité, nous serons devant lui comment? Éphésiens chapitre 5 nous donne la réponse. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais quoi? Sainte et irréprochable. Ça, c'est le but, en fait, de Dieu pour le salut. Donc, forcément, c'est le but de la prière. C'est nous amener plus et plus comme Christ dans la sainteté. Nous devons prier dans l'esprit de sainteté, dans l'esprit qui sanctifie. On ne peut pas prier à l'encontre du Saint-Esprit et en même temps prier par l'esprit. Le Christ est mort pour nous amener à Dieu dans cet état de sainteté. Et l'Esprit a été envoyé pour faire de nous un temple. C'est ce qu'un Corinthien nous dit. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes son temple, il dit, mais attends, vous ne pouvez pas prendre le temple et faire n'importe quoi avec le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de sainteté habite donc notre corps. Et nous devons prier comme lui, nous devons prier avec ce caractère. Et n'est-ce pas la raison pour laquelle nous ne ressentons souvent pas la présence de Dieu, que nous ne ressentons pas son amour, que nous n'avons même pas aussi les réponses, même à nos prières. Jacques dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et puis, il dit, après, vous demandez et vous n'avez toujours pas, hein, parce que vous demandez mal. Et c'est pour les quoi? C'est pour les utiliser pour vos propres convoitises. Ça, c'est pas prier selon l'esprit. Nous devons céder à l'Esprit. Christ est mort pour nous amener à Dieu dans la sainteté. Et marcher selon l'Esprit, c'est céder à ces instincts que l'Esprit nous donne. Je vous assure, l'Esprit en nous, il nous donne des instincts pour la sainteté. Et la Bible est claire. Vous avez un instinct, vous avez un désir vers, je ne sais pas, quelque chose de charnel, vers la débauche. On sait d'où ça vient. Il dit, ça, c'est les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont évidentes. Il donne toute une liste. Il ne faut pas dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé dans cette direction. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est prier donc par l'esprit. Et c'est important aussi dans nos prières. Prenez Jacques 5. Verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et juste après, il va nous donner un exemple. C'est qui l'exemple d'une prière d'un juste?
C'est...
C'est pas Job. Job vient avant, hein, il a parlé de Job. Mais juste après, il parle de Élie. Voilà, c'est ça. Élie. Qui prie, puis qui ne pleut pas, et puis qui prie encore, puis il pleut. Alors, quand il dit la prière du juste, ça parle de qui exactement? Parce que dans la Bible, le juste est identifié de. En fait, ça parle de deux. Pas deux types de personnes, mais je crois que cette citation de Mark Arthur nous aide à comprendre les deux sortes de justice dont la Bible parle. Il dit, quelle est la justice dont parle Jacques, en Jacques 5, 16? La Bible fait référence à deux types de justice. La première justice est la justice déclarée ou justifiante du Christ, que Dieu impute aux croyants par leur foi. Il s'agit d'une justice légale basée sur une comptabilité légale. En d'autres termes, il s'agit d'une justice qui existe en dehors de nous, mais qui est créditée à notre compte par la foi. Hein, les réformateurs parlaient d'une justice étrangère à nous, c'est-à-dire on la reçoit. Paul dit, en Philippiens 3:9, je vais être trouvé, pas avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec la justice de Dieu qui vient par la foi. Okay? Donc Dieu nous donne sa justice. Si nous sommes déclarés justes, on n'est pas moitié juste, on est déclaré juste en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes 100% justifié, 100% déclaré juste. Ça, c'est la justice imputée, la justice légale qui nous est donnée lors de notre conversion. Mais l'autre type de justice dans la Bible est une justice personnelle et pratique. Il nous est commandé de vivre une vie juste. Nous avons déjà été parfaitement rétablis auprès de Dieu par le Christ, comme si nous portions la justice parfaite du Christ, mais il nous est encore demandé de vivre à la hauteur de notre position en Christ. Jacques 5, 16 parle de cette justice pratique. Jacques dit que si vous vous attendez à ce que Dieu réponde à vos prières, vous devez vous engager à vivre une vie juste. C'est la même chose avec la sainteté. Les chrétiens sont appelés saints parce qu'ils sont mis à part par Christ. Donc ils sont sanctifiés. Mais c'est aussi un processus où nous sommes changés dans l'image de Christ et nous sommes sanctifiés de plus en plus par l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et nous voyons cela dans la Bible, que notre justice pratique est importante. On ne peut pas vivre n'importe comment et s'attendre à ce que Dieu réponde à nos prières. Voici quelques preuves bibliques de cela. 1 Jean 3, 22, pour le dire positivement, il dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevions de lui. Pourquoi ? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Il semble presque ici comme il y a deux catégories. D'abord, on garde ses commandements, les choses qui sont claires et nettes. Mais lisez Éphésiens 5, je crois que c'est verset 10, où il dit « Cherchez à savoir ce qui est agréable à Dieu. » Il veut qu'on aille plus loin pour vraiment chercher à connaître ce qui lui est agréable. Et nous savons qu'il nous répond parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est le contraire, enfin c'est la même chose, mais dit dans l'autre sens, quand Jacques 4, où il dit « Vous n'avez pas parce que vous demandez mal ». Il est évident donc que la sainteté personnelle est une condition essentielle à l'exaucement de la prière. Que dit le psalmiste ? Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. On peut demander mal. Et encore plus frappant, en tout cas pour moi, c'est ce que Pierre dit en 1 Pierre 3, 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. » Et puis il dit ceci, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça, c'est frappant. Ça, c'est la Bible, hein. C'est la sainte parole de Dieu. Il peut y avoir des choses dans nos vies qui viennent faire obstacle à nos prières. Si nous prions comme ça, nous ne prions pas par l'Esprit. Quand je lis ça, je pense souvent quelque chose que j'ai témoigné quand j'étais à l'université, dans une très grande église, hein, plusieurs centaines de personnes. Il y a eu un homme, déjà à la retraite, mais il avait été pasteur, je crois missionnaire en Amérique du Sud. Et il avait été immoral. Et il l'avait caché. Et puisqu'il l'avait caché, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu vaincre. Et c'est revenu. Et finalement, le Seigneur l'a brisé. Et il est venu devant toute l'Église confesser, parce qu'il devait être discipliné aussi par l'Église. Et il a dit que c'était ce verset avec lequel le Seigneur l'avait finalement brisé, parce qu'il avait des enfants adultes qui n'étaient pas en Christ, et il priait sincèrement pour eux tous les jours. Et le Seigneur, il a dit, a mis son doigt sur sa propre vie, il a dit, voilà, comment est-ce que je peux m'attendre à ce que Dieu me répand quand je cache le péché dans ma vie. Et pour ceux qui ont été là, c'était émouvant de voir comment Dieu peut vraiment mettre la main sur quelqu'un, et il résiste pendant des années même, et finalement, il brise. Et là, il a la victoire. Et Jacques nous donne, on a déjà noté, hein, l'exemple d'Élie, et il est présenté comme un homme juste, qui plaisait à Dieu, et donc il n'y avait pas d'obstacle à sa prière. Et donc nous devons prier comme une personne ayant le même caractère que l'Esprit. L'Esprit est saint, il est l'Esprit de sainteté. C'est son œuvre spécifique, d'œuvrer en nous la sainteté après nous avoir mis à part. Et lorsque nous chutons, nous avons vu en Pierre, un Pierre là, que aussi nous amène toujours à ce sang, le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de toute iniquité. Et nous pouvons dès maintenant confesser nos péchés et faire l'expérience de la purification du Fils. Et je vous exhorte maintenant, ce soir, faites-le. Venez avec un cœur sincère, pleinement convaincu de l'efficacité de ce que Jésus-Christ peut faire. Vous pouvez dès ce soir être purifié et puis prier donc par l'esprit de sainteté. Prions ce soir par l'Esprit de sainteté. Et la prochaine fois, nous allons regarder ce que cela veut dire par rapport au contenu même de nos prières.